Vous écoutez, on lit pour vous.
Les tests psychométriques utiles ou pas? Un texte de France Duchesne, paru le 20 août 2024 dans la presse. Question de Carole, une lectrice. Les tests psychologiques de pré-embauche ont-ils été actualisés ou sommes-nous encore à utiliser les mêmes tests depuis des décennies? Sont-ils même toujours d'actualité? La question est pour les postes de gestionnaire. Avez-vous déjà eu l'impression que votre candidat idéal sur papier ne correspondait plus aux attentes une fois entré en poste? Pourtant, ses compétences et son expérience sont exactement celles recherchées. Parfois, cette situation peut être due à un choc de culture entre l'organisation et la recrue, mais elle peut également découler d'un écart entre les attentes du poste et les caractéristiques psychologiques liées à la performance au travail du candidat. Je dirais donc que non seulement les tests psychométriques sont toujours d'actualité, mais ils sont probablement encore plus utiles qu'avant, puisqu'ils sont basés sur une science comportementale qui a évolué et une méthodologie reconnue. Ces tests ne sont pas conçus pour évaluer l'intelligence, mais plutôt les préférences, les styles de travail et les aptitudes d'une personne. Ils servent à mesurer des traits de personnalité, des compétences et des motivations liées à la performance au travail. Sachant que le marché de l'emploi est de plus en plus compétitif, vous pourrez ainsi réduire les risques liés à l'embauche en obtenant des informations précieuses sur les forces et les faiblesses des candidats prometteurs. Variété de tests. En explorant les tests psychométriques offerts, vous trouverez un éventail d'options conçues pour évaluer divers aspects du profil d'un candidat. Certains tests se concentrent sur la mesure des capacités cognitives, comme le raisonnement, la résolution de problèmes et la capacité à prendre des décisions. D'autres se penchent sur les traits de personnalité, les styles de travail et les facteurs de motivation qui peuvent influencer de manière significative la performance au travail. Ces tests donnent un aperçu des comportements, des préférences et des valeurs d'une personne, ce qui vous permet d'évaluer si les résultats correspondent à la culture de l'entreprise et aux exigences du poste. En analysant des traits comme l'influence, l'adaptabilité, la conscience professionnelle, la stabilité émotionnelle et l'ouverture d'esprit, vous pourrez vous faire une idée du style de communication d'un candidat, de son potentiel de leadership, de ses capacités de travail en équipe et de ses compétences en matière de gestion du stress. Vous réduisez ainsi le risque d'embaucher des personnes inadéquates pour le poste. Toutefois, il est essentiel de savoir que les réponses données lors des tests psychométriques peuvent être influencées par des facteurs culturels différents des normes de référence. Les compétences linguistiques peuvent également influencer de manière significative les résultats des tests, en particulier lorsque les évaluations sont effectuées dans une langue qui n'est pas la langue maternelle du candidat. Assurez-vous de pouvoir reconnaître ces biais cognitifs. Finalement, même si ces tests constituent des outils précieux, ils ne devraient pas être le seul facteur déterminant dans le processus d'embauche. Pour prendre des décisions éclairées et complètes, il est essentiel de combiner les résultats de ces tests avec d'autres informations pertinentes recueillies lors des entrevues et de la vérification des références et des antécédents professionnels du candidat, par exemple. Lorsque l'embauche se concrétise, les résultats des tests peuvent même servir de repère pour guider l'intégration du candidat dans le poste. Développement de la relève. Les tests psychométriques s'avèrent également utiles pour la formation interne, en particulier pour repérer et développer les futurs dirigeants. Grâce à ces tests, vous pouvez déceler les qualités innées de leadership d'un employé, son aptitude naturelle à la réflexion stratégique ou sa capacité à motiver et à inspirer les autres. Ces observations vous permettent d'investir stratégiquement dans son développement et de favoriser la croissance d'un de vos futurs leaders. À partir des résultats des tests, vous pourrez élaborer des plans de développement sur mesure en tirant parti des points forts de l'employé tout en travaillant sur les lacunes à améliorer. Vous êtes convoqué à un test psychométrique? Considérez le test comme une occasion de développement personnel et de connaissance de soi, plutôt que comme un obstacle à surmonter. En tant que candidat, il est essentiel d'aborder ces tests avec un état d'esprit positif et ouvert, en faisant preuve d'honnêteté surtout envers vous. Résistez à la tentation de présenter une version améliorée de vous-même, car ces tests sont conçus pour révéler vos véritables traits de personnalité et vos motivations. Essayer de tromper le test n'aboutira qu'à une situation perdant-perdant, où vous risquez d'obtenir un poste qui ne correspond pas à votre personnalité, ce qui entraînera de l'insatisfaction ainsi qu'une faible performance. Rappelez-vous que l'objectif est d'associer des candidats à des fonctions qui correspondent à leurs intérêts et à leurs habiletés naturelles. En étant authentique, vous augmentez vos chances de trouver un emploi qui non seulement vous convient, mais également vous permet de vous épanouir et de performer. Vous n'avez pas eu le poste? Sachez que ces tests n'ont pas pour but de vous étiqueter ou de vous juger comme étant bon ou mauvais. Au contraire, ils fournissent des informations précieuses sur la perception que vous avez de vous-même et peuvent servir de point de départ à votre développement personnel et professionnel. Demandez une copie de vos résultats. Ils vous serviront à mieux orienter votre recherche d'emploi. C'était « Les tests psychométriques utiles ou pas », un texte de France Duchesne, paru le 20 août 2024 dans La Presse.
Mille tonnes de plastique et un poids de moins sur les épaules, un texte d'Alexandre Vigneault, paru le 8 août 2024 dans La Presse. Température record, incendie de forêt, inondation, les maux de l'environnement donnent bien des raisons de s'inquiéter. Le meilleur remède contre l'éco-anxiété, c'est de passer à l'action, estime Jimmy Vigneault, cofondateur de la mission Milton, qui mise sur la mobilisation citoyenne pour nettoyer les abords des cours d'eau. La vague de chaleur qui touchait Montréal à la fin de juillet 2024 battait son plein lorsqu'on a retrouvé Jimmy Vigneault près de la plage urbaine de Verdun. On oublie souvent qu'on a accès au fleuve à Montréal, observe-t-il. Ici, à Verdun, les gens se baignent dedans. Il n'y a pas foule en ce mardi après-midi 6 août 2024, mais quelques dizaines de personnes profitent du soleil, du sable et de l'eau. Des familles, avec de jeunes enfants surtout. On sent ici un parfum de vacances plus enivrant que dans n'importe quel autre parc de la ville. Ce lieu a une valeur symbolique aux yeux de Jimmy Vigneault. C'est d'ici que partira l'expédition Saint-Laurent, le vendredi 9 août 2024. On y reviendra. C'est aussi ici que la mission d'Eaton, l'objectif a été multiplié par 100 depuis, a mené sa première opération citoyenne de ramassage de déchets. Les gens de Verdun se mobilisent beaucoup, souligne-t-il, citant propre à commercial Verdun, un groupe de citoyens qui nettoie les espaces publics. Comme pour lui donner raison, Jimmy Vigneault est interpellé 2 minutes plus tard par un passant qui a reconnu son T-shirt. François Dandurand connaît la mission Milton, mais n'a encore jamais participé à un ramassage collectif dans son coin. « Je n'étais pas dans les parages quand ça se faisait », explique-t-il. Des déchets, il en ramasse quand même partout où il va, seul, depuis 20 ans. L'idée lui est venue après avoir vu un autre citoyen le faire. Je trouvais qu'il avait l'air un peu fêlé, ajoute-t-il. Je me disais que c'était aux employés de la ville de faire ça. Puis, à force d'y réfléchir, il s'est dit qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il y ait un col bleu à chaque coin de rue pour ramasser tout ce que les citoyens pitchent sans regarder. Alors il s'est mis en action. L'élan de s'impliquer. Jimmy Vigneux, qui est aussi à la tête de Stratégie Saint-Laurent, un organe de concertation visant notamment à protéger le fleuve, ne se destinait pas à l'action environnementale. Il reconnaît cependant avoir un fond militant bien ancré. J'ai toujours voulu m'impliquer socialement, créer du changement pour les causes que je trouve justes, dit-il. Avant de lancer ce qui est devenu la mission Milton, Jimmy Vigneux essayait déjà de provoquer une prise de conscience. Je partageais de mauvaises nouvelles environnementales sur les réseaux sociaux en me disant « ça va réveiller le monde », se rappelle-t-il, jusqu'à ce qu'il se rende compte que ça faisait l'inverse. Les mauvaises nouvelles donnent envie de se refermer sur soi-même et nourrissent l'éco-anxiété, a-t-il constaté. Ainsi, quand la biologiste marine Lynn Morissette et lui ont lancé leur projet citoyen de nettoyage des berges, il était capital que le message soit positif et le reste. On ne dit jamais « Regardez comme c'était dégueulasse », dit-il, en parlant des opérations de nettoyage. On dit « On était 50, on était 100 personnes, c'était le fun de faire ça ensemble pour changer les choses ». Ça, c'est motivant. Il faut créer un mouvement positif. Les mouvements catastrophistes, les gens s'en éloignent, c'est déprimant. Passer à l'action a un autre avantage, selon lui, prendre conscience qu'on n'est pas seul. L'idée de Lynn Morissette et de Jimmy Vigneux a fait boule de neige, en effet. Des communautés de toutes les régions du Québec se sont mobilisées effectuant des milliers de nettoyages communautaires qui ont permis de ramasser 404 tonnes de déchets à ce jour. Un effet global. Il y a toujours des déchets à ramasser un peu partout dans la région de Montréal, surtout des plastiques à usage unique, mais Jimmy Vigneux voit la différence entre 2018 et maintenant. On ne trouve plus beaucoup de pneus de morceaux de frigidaire ou de métal, de gros morceaux comme ça, parce que ça fait 7 ans qu'on les ramasse, dit-il. La mission Milton a aussi gagné en portée. Elle a désormais des ambassadeurs jusqu'en France, au Danemark et au Togo qui mobilisent leur communauté pour ramasser des déchets. Ses ambitions sont aussi plus importantes. Elle amorcera vendredi une opération baptisée « Expédition Saint-Laurent » qui partira de Verdun pour se rendre à Anticosti avec des arrêts dans une dizaine de municipalités sur la route. En plus d'organiser des opérations de nettoyage des berges et des fonds marins, des plongeurs seront mis à contribution tout au long du parcours. L'équipe prendra des échantillons de sédiments pour caractériser les microplastiques qu'on y trouve. En sachant quel type de microplastiques on trouve sur les berges, les efforts de nettoyage pourraient être mieux ciblés, explique Jimmy Vigneux. Ce qui fait le succès de la mission Milton, selon Jimmy Vigneux, c'est qu'elle repose sur un geste à la portée de tout le monde, se pencher pour ramasser un déchet et que la protection de l'environnement concerne tout le monde. On peut guérir toutes les maladies de la Terre. Mais si la planète meurt, ça ne sert à rien. En savoir plus, 84% proportion de Québécois inquiets des changements climatiques, source, sondage léger, septembre 2023. 4 millions de tonnes, quantité de plastique jetée chaque année par les Canadiens. Seulement 8% de ce plastique est recyclé et 40 000 tonnes aboutissent dans des milieux naturels, polluent l'eau, nuisent à la faune et libère des produits toxiques. Source, Expédition Saint-Laurent. 59 % des Québécois, des générations Y, millénariaux, et Z, croient que l'environnement va se détériorer en 2024. Source, Études jeunesse, Léger, été 2023. C'était 1000 tonnes de plastique et un poids de moins sur les épaules, un texte d'Alexandre Vigneault, paru le 8 août 2024 dans la presse.
Le gouvernement écoute le BAP, en partie, un texte de Roxane Léouzon, paru le 13 août 2024 dans Le Devoir. Environ le quart des projets qui ont reçu un avis défavorable du Bureau d'audience publique sur l'environnement, BAP, dans les 45 dernières années ont par la suite été refusés par le gouvernement du Québec, selon une analyse de deux chercheurs universitaires canadiens. C'est un signe, d'après eux, que le BAP a une influence sur le gouvernement, même si ce dernier ne l'écoute pas toujours. Quand le BAP dit non, il y a une plus grande probabilité que le gouvernement dise non. Et la vaste majorité des projets rejetés par le gouvernement avaient reçu un avis défavorable, souligne Louis Simard, professeur à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, qui s'intéresse à cette institution depuis de nombreuses années. Le sujet est d'actualité puisque de nombreux projets liés à la transition énergétique et à l'exploitation minière sont appelés à être soumis à un examen du BAP dans un avenir rapproché. Avec son collègue Mario Gauthier de l'Université du Québec en Outaouais, M. Simard a examiné les dossiers ayant fait l'objet d'une audience publique, notamment des lieux d'enfouissement sanitaire, des projets autoroutiers et des centrales de production électrique. Ils ont été classés selon le positionnement exprimé dans le rapport. Environ 20 % d'entre eux ont été considérés comme étant défavorables. Dans sa conclusion, le rapport va dire, par exemple, « Nous considérons que ce projet ne devrait pas être réalisé. Nous considérons que ce projet devrait être revu dans son ensemble. » Ou « Il n'y a pas d'acceptabilité sociale », a expliqué M. Simard, qui a présenté les résultats de leurs recherches lors du 61e congrès de la Société québécoise de sciences politiques au printemps dernier. Un article scientifique est en cours de rédaction en vue d'une publication dans une revue. Les chercheurs ont pu trouver 263 projets ayant reçu une décision de la part du gouvernement. Parmi les 50 projets ayant fait l'objet d'un avis négatif du BAP, 28 ont quand même été autorisés. 8 ont été abandonnés par le promoteur, alors que 13 ont été refusés. Parmi les projets refusés, on compte notamment celui d'Énergie Saguenay par GNL Québec et plusieurs dépotoirs. En tout, 85,9% des projets qui sont passés par une audience du BAP ont été autorisés, 5,7% ont été refusés et 7,6% ont été abandonnés par le promoteur. Des fois, le gouvernement n'écoute pas le BAP ou il ne l'écoute que vraiment partiellement. Par exemple, en incluant des conditions dans son décret, explique Louis Simard. La démocratie participative n'a pas comme ambition de remplacer la démocratie représentative. Ce sont les élus qui décident et le BAP n'est qu'un exercice de consultation. Il semble par ailleurs que les opposants au projet ont tout avantage à participer aux audiences. Les consultations ayant débouché sur des avis défavorables ont reçu en moyenne un plus grand nombre de participants. Une augmentation du nombre de participants semble augmenter la probabilité d'un avis défavorable par rapport à un avis favorable, peut-on lire dans la présentation des chercheurs. De leur côté, 65 projets ont reçu un accueil positif de la part du BAP, mais la majorité des avis, soit 147, ont été considérés comme étant mitigés, puisque la position exprimée était moins claire. Dans ces cas, le BAP formulait souvent une série de conditions comme la révision de certains aspects du projet, la création d'un comité de suivi avec les citoyens ou la mise à jour de besoins énergétiques.
ces conditions sont importantes car elles sont souvent reprises dans les décrets gouvernementaux. Tous les projets qui passent par le BAP doivent normalement faire l'objet d'un décret gouvernemental où on peut trouver jusqu'à une trentaine de conditions, pouvant aussi venir de l'analyse parallèle du ministère de l'Environnement, a indiqué le chercheur. Des effets plus larges. L'analyse d'effets limites contradictoires selon lesquels le BAP n'a aucun effet ou bloque systématiquement les projets, avancent les chercheurs. La réalité est entre les deux, affirme M. Simard. Il croit que le BAP est un outil robuste et contraignant puisqu'il force les promoteurs et le gouvernement à passer par un exercice public de présentation, d'explication et de justification des projets et de leurs conséquences. D'ailleurs, le professeur estime que les effets du BAP vont bien au-delà des décisions gouvernementales. Sur 45 ans, énormément d'apprentissages ont été réalisés, dit-il. Les promoteurs développent de nouveaux outils pour rendre leurs projets plus acceptables pour la population. Il estime qu'il faudra prévoir une augmentation des ressources en vue des nombreux projets à venir avec la transition énergétique afin de continuer de tenir des audiences publiques et un processus de consultation qui respecte les règles de l'art. C'était « Le gouvernement écoute le BAP en partie ». Un texte de Roxane Liouzon, paru le 13 août 2024 dans Le Devoir.
Faire le plein de beauté et d'inspiration. Un texte de Claude Pinard, paru le 15 août 2024 dans La Presse. Je suis du type verre à moitié plein. Immanquablement, je vois plus de possibilités que de problèmes, d'occasions d'élever le débat que de rabaisser son niveau. C'est plus fort que moi. J'ai tendance à me concentrer sur le chemin parcouru et les petites victoires qui mèneront loin. Je poursuis ma tournée estivale d'organismes soutenus par Centraide. Cette saison, où les choses se déroulent un peu moins vite, est idéale pour prendre le temps d'aller au-devant des gens. C'est ce qui fait que je passe un été magnifique, porté par des rencontres bouleversantes, humaines et inspirantes. Depuis juin 2024, j'en ai fait plusieurs dans différents secteurs. Famille, jeunesse, santé mentale, personnes aînées. La population desservie n'est pas la même, mais l'approche d'intervention, elle, est semblable. Le fil conducteur, briser l'isolement des personnes. Le thème ressort partout, parce qu'il fait bien sûr écho à notre réalité. Un monde en apparence hyper connecté, mais paradoxalement, coupé de son environnement immédiat. Bref, et un peu simplistiquement, j'aime inventer des mots, les interactions virtuelles peuvent nous donner l'impression d'appartenir à une communauté, mais elles contribuent aussi à une certaine désaffiliation sociale. Souvent aussi, c'est la précarité qui mène à l'isolement, à cause de la honte qu'elle génère. Afin de contrer ce phénomène, il faut procéder à la réaffiliation sociale des personnes qui sont souvent en situation de vulnérabilité, d'exclusion sociale ou de marginalisation. Cela permet de tisser un premier lien fort et de rebâtir la confiance. Cette approche globale est basé sur le continuum de la personne. Je fais ici allusion à l'expression « continuum de service » à laquelle nous sommes dorénavant habitués. J'ai ainsi rencontré un organisateur communautaire d'un CI3S qui n'a plus de bureau physique depuis plusieurs années. Son bureau est dans les organismes communautaires qu'il visite chaque jour. Dans un organisme que je visitais, il appelait tous les usagers par leur prénom. Je lui ai demandé de m'expliquer son travail. C'est assez simple. Je m'assure que les gens connaissent les organismes et les services du réseau de la santé qui peuvent les aider dans leur situation précise. Je les dirige et je fais le suivi afin qu'ils reçoivent les services dont ils ont besoin. Des histoires d'intervention pour briser l'isolement ou pour réaffilier les gens, j'en ai entendu beaucoup. Voici d'ailleurs quelques perles. nous offrons des ateliers où les gens peuvent partager leur parcours de vie. De cette façon, ils voient qu'ils ne sont pas seuls dans leur situation et qu'au-delà des écrans, il y a de vraies personnes. Notre approche est systémique, en ce sens que nous intervenons auprès des jeunes et de leurs parents. C'est l'environnement familial que nous appuyons. Les personnes se sentent parfois loin de la société, comme si elles vivaient en marge. En participant à des activités en groupe, elles voient qu'elles ne sont pas seules, isolées. Elles brisent ainsi leur isolement physique et social en sortant de leurs quatre murs et en rencontrant des personnes vivant le même type de situation. Lorsque nous rencontrons des jeunes de moins de 15 ans, nous utilisons des avatars afin de parler de cas types en santé mentale. Immanquablement, après nos présentations, des jeunes viennent nous voir pour nous dire qu'ils se sont reconnus. Ça nous permet de rapidement les référer à des intervenants. J'ai rencontré quelqu'un qui est devenu membre du conseil d'administration d'une organisation en santé mentale. Cette personne avait été recrutée par l'organisme alors qu'elle était sur un banc de parc. Invitée à participer à des activités de groupe, elle contribue maintenant activement à la gouvernance de l'organisme qui l'a aidée. De toute beauté. Il y a aussi ce dirigeant qui me parlait de son travail auprès de proches aidants mineurs. Quoi? Il s'agit de jeunes personnes qui vivent avec un ou des parents ayant une problématique en santé mentale et qui participent à des ateliers afin de mieux comprendre comment ils peuvent composer avec la détresse de leurs proches et les appuyer. Je vous avoue que le cœur m'a fait deux tours. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander à ce dirigeant s'il trouvait son travail difficile, et surtout, comment il faisait pour décrocher. Merci de la question. Et la réponse est très facile. Si je fais la différence dans la vie d'un seul jeune aujourd'hui, ma journée est faite. Ce sentiment d'avoir un impact concret dans la vie de quelqu'un, d'une famille, est incroyablement valorisant. Cette tournée estivale est une leçon d'humanité, de dignité, un hommage au sens retrouvé. Ne reste qu'à continuer à remplir ce verre à moitié plein. C'était Faire le plein de beauté et d'inspiration, un texte de Claude Pinard paru le 15 août 2024 dans La Presse.